c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Open FM, votre radio des mondes en Bazac avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Open FM. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé.
Le Talk Show Radio.
Et au programme de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, une édition spéciale Luchon que l'on va démarrer dans quelques instants avec Patrick Timsit, le président du jury, qui va démarrer cette émission avec nous. Nous allons dérouler ensemble le palmarès de cette 22e édition qui a été rendue donc samedi soir depuis Luchon avec les réactions exclusives des lauréats. En deuxième partie d'émission, nous aurons nos coups de cœur télé depuis Luchon avec l'équipe de la série Il a déjà tes yeux. Nous parlerons également du canal des secrets, le film de France 3 avec Annelise M. et Aurélien Vic qui sont nos invités. Fabrice Atkin sera également avec nous pour nous parler de MBS, le documentaire sur France 5. Et puis nous aurons le plaisir de consacrer la dernière partie de notre émission au film Le Prince Oublié avec Bérénice Bejo et Michel Zanavicius qui seront nos invités. Alors sans plus tarder, on démarre notre spécial Luchon.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, notre spécial Luchon démarre avec Monsieur le Président, c'est comme ça qu'on l'appelle hein, depuis mercredi dernier. C'est Patrick Timsit qui est avec nous, bonjour Patrick.
Bonjour, mais appelez-moi Président, c'est mieux.
Oui, Monsieur le Président, exactement. D'ailleurs, Monsieur le Président qu'on pourra retrouver eh bien, en spectacle du côté de La Rochelle en Nouvelle-Aquitaine du 15 au 18 avril prochain et qui viendra présenter son tout nouveau spectacle. Patrick, déjà, première question que j'ai envie de vous poser, mais comment on réagit quand on se fait proposer comme ça un rôle de président de jury qui plus est fiction?
Eh ben, j'ai accepté immédiatement parce que d'abord, c'est vrai que festival télé, aujourd'hui, il y a vraiment des choses à dire. Il y a vraiment des films que j'ai fait qui ont marqué vraiment aussi la carrière, autant que le cinéma ou autant que les spectacles, parce que du fond, parce que des sujets sociaux et parce que la télé elle est vraiment bien aussi pour ça, dans ces formats où on a le temps d'approfondir la psychologie des personnages.
Je suppose que vous aimez être surpris quand vous regardez quelque chose, justement, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Et justement, là, l'avez-vous été dans cette sélection?
Oui. Mais le mot est juste parce que la surprise, c'est vrai que c'est ce qu'on attend dans un film à un moment et qu'est-ce qui va se passer. Et là, elle est vraiment au rendez-vous sur la plupart des films. Il y a vraiment, là, je viens même de voir du digital, série digitale interactive. Enfin, c'est formidable, c'est enrichissant.
Quand on regarde en arrière, justement, vous trouvez que ça a évolué un petit peu tout ça, qu'il y a plus de culot, on ose plus à la télévision, peut-être même plus qu'au cinéma, on prend plus de risques aujourd'hui?
Je sais pas, j'arrive pas moi à réfléchir comme ça, vous savez, j'entends tellement de choses aussi sur l'humour, on est dans le politiquement correct, on peut plus rien dire, et en même temps il y a jamais eu autant d'humoristes, il y a jamais eu autant de gens qui s'exprimaient en télé, pour dire des choses quand même assez énormes, donc toutes ces conclusions comme ça, aujourd'hui c'est mieux, aujourd'hui c'est moins bien, avant on pouvait, maintenant on peut plus, non, ça demande qu'à se contredire justement, et non, je pense qu'en revanche, il faut être vigilant à ne pas tomber dans une volonté de plaire au plus grand nombre, quitte à dégringoler la qualité des sujets. Et peut-être que les plateformes, Amazon, Apple, Netflix bien sûr, j'aimerais voir comment ils vont réagir. Il y a les deux possibilités justement où ils se disent nous du coup il faut qu'on fasse du plus populaire, voire du populiste presque, ou alors au contraire devenir encore plus pointu, parce que c'est vrai que ça devient la spécialité un peu des plateformes. Ils sont provocateurs alors que dans la télé le fond c'est plutôt du sujet vraiment d'ouverture d'esprit, je dirais.
Le nouveau spectacle, c'est vraiment un adieu à la scène, au One Man Show?
Il s'appelle Adieu peut-être, merci c'est sûr, mais c'est vraiment un adieu, pour moi j'en suis sûr. Et plus on ne me croit pas, et plus ça me montre que j'avais raison de le faire maintenant. Je préfère faire des adieux quand on se demande pourquoi, plutôt que des adieux quand on comprend pourquoi. Oui, c'est pas une formule que j'ai faite et refaite, je viens de la sortir parce qu'elle est vraiment sincère. C'est tant mieux qu'on me dise pourquoi et tant mieux qu'on n'y croit pas.
Eh bien, on va rire encore, j'en suis sûr, sur scène. Ça sera du 15 au 18 avril d'ailleurs. Donc vous pourrez y venir à la Comédie de La Rochelle. Un rendez-vous à ne pas rater. En DVD aussi, vient juste de sortir le film de Géraldine Nakache qui s'appelle J'irai où tu iras. Où là, vous avez joué le rôle d'un papa. Voilà, c'est Mal en Point qui essaye de réconcilier deux sœurs que tout oppose. Là aussi, un joli rôle.
Oui. Oui, et j'aime ces femmes réalisatrices quand elles viennent chercher effectivement chez moi des choses qu'on n'a peut-être pas vues ou pas discernées. Et c'est un peu leur spécialité.
Merci beaucoup Patrick d'avoir passé ces quelques minutes avec nous ici pour cette spéciale Festival de Luchon. Et puis on se retrouve très vite du côté de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va se quitter tiens, avec un petit extrait de J'irai où tu iras justement. Voilà, un très beau film de Géraldine Nakache avec Leïla Bekti et vous-même. Merci.
Et du Céline Dion donc après, merci.
Du Céline Dion aussi, bien sûr.
Chez moi les forêts se balancent et les toits grattent le ciel.
Jour J demain, c'est fini les mariages. Là on passe au stade supérieur ma fille.
Allez papa, à demain.
Je peux pas t'accompagner demain.
Moi j'y vais pas sans toi papa.
Dernier jour.
J'aimerais bien que t'accompagnes ta soeur demain à son rendez-vous.
Ok.
Merci ma fille.
Évidemment que non.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Voilà, merci beaucoup Patrick. Et on va dérouler ensemble donc maintenant le palmarès de cette 22e édition, à commencer par le prix du public pour la sélection espagnole qui a été attribué à la série La Casa Monte Perdido. Le prix des collégiens de la web-série, lui, a été attribué à Mitch et Michel. Le prix du public de la web-série avec des votes en ligne et des votes en salle ont été attribués à la série TAC, Trouble Absurde du Comportement. Et le Pyrénées d'Or de la web-série a été attribué à Jean Rumen. Pour les documents, le prix du public du documentaire a été attribué au Cavalier Mongol. Le prix de la réalisation montage a été attribué à deux films ex aequo, Les Lycéens, Le Traître et Les Nazis et Le Cavalier Mongol. Et le Pyrénées d'Or du meilleur documentaire a été attribué au film de Ketty Rios Palma, Incassable, dont je vous propose tout de suite d'écouter la réaction.
Donc beaucoup de larmes, une émotion extrême, une joie... Une joie personnelle, du travail reconnu par mes pères, une joie pour ses enfants, une joie pour le travail des éducateurs. Et ça, c'était important aussi que ça soit salué. Et puis pour ma formidable équipe, voilà, c'était deux années intenses, humainement, professionnellement, beaucoup d'engagement. Et je suis tellement fière de... on vient tout juste de le finir ce film, donc j'ai à peine eu le temps de réaliser que ça me tombe dessus. C'est une émotion, c'est difficile de trouver les bons mots, mais je suis super heureuse, super heureuse.
Et les deux derniers prix documentaires, c'est le prix du web documentaire qui a été attribué à Inch'Allah peut-être de Sophie Vernet, et le prix de l'originalité du sujet a été attribué à Les Damnés des ouvriers en abattoir de Anne-Sophie Reinhardt. On va passer tout de suite maintenant au prix attribué par le jury professionnel de fiction, et le prix du meilleur jeune espoir masculin a été attribué à deux prix ex-aequo, à Maxence Danet Fauvel et Félix Lefebvre pour Le Diable au cœur. Et puis le prix du meilleur espoir féminin a été attribué à Jessirielle Massengo pour le téléfilm Mauvaise Mère. Et je vous propose tout de suite la réaction de Jessirielle.
Alors là, je suis énormément comblée de bonheur. C'est vraiment, j'aurais pas pu rêver d'une meilleure fin pour une première expérience.
Alors c'est pour Mauvaise Mère, un film d'Adine Darrow. C'est ta première grosse expérience.
C'est ça, ma première grosse expérience, ma première expérience tout court d'ailleurs. Et vraiment, je suis trop contente. Je m'attendais pas à recevoir ce prix-là.
À qui t'as pensé quand t'as reçu ce prix en premier?
Mais à moi-même, parce que je me suis dit que j'ai réussi à arriver jusque-là. En sachant que j'ai trouvé ce casting toute seule, du coup, j'ai réussi à arriver jusque-là grâce à mes moyens. Après, j'ai pensé à ma famille, bien évidemment, mes frères, mes sœurs.
Tu viendras nous voir lors de la diffusion avec ta réalisatrice Adeline Darrow pour nous parler évidemment de ce film qu'on verra bientôt sur France 3.
Ah, mais y a pas de souci, franchement, je suis là.
Merci beaucoup, Jessirielle. À bientôt.
Très bien, à bientôt.
Quant au prix de la meilleure musique originale, elle a été attribuée à Nicolas Jorel pour le téléfilm De l'autre côté de Didier Bivel. Le prix du meilleur scénario, c'est Ingrid Desjours, Florent Meyer et Mathias Gokalp pour la série Amour fou. Le prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué à Yannick Chouara pour Un homme abîmé. Et le prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à Clotilde M pour Amour fou. C'est le deuxième prix pour Mathias Gokalp. Le prix du meilleur réalisateur a été attribué à Philippe Tribois pour Un homme abîmé. Et on a d'ailleurs eu la réaction de Philippe Tribois. Écoutez.
Très très heureux. La reconnaissance à la fois du public que nous avons eu avant et de mon travail, et de Yannick Chouara comme meilleur comédien, ça donne une espèce de panorama de... ça nous dit à quel point notre film a touché les gens de différentes manières. Donc tout ça, les prix s'accumulent les uns les autres et on a un sentiment de plénitude qui nous rend très très heureux.
Alors Yannick avait obtenu déjà le prix de l'interprétation masculine à La Rochelle. Absolument. C'est le deuxième prix d'affilée. Absolument. Ça doit être une fierté.
C'est merveilleux pour lui parce que Yannick est un comédien qui vient du théâtre subventionné, qui fait aussi des très beaux téléfilms, mais qui n'a pas fait tant de films où il supportait le film, où il était l'acteur principal. Donc je pense, j'espère en tout cas que dans sa carrière, que je lui souhaite glorieuse et qu'il sera en partie avec moi, parce qu'on va continuer ensemble, je souhaite que ces prix l'aident, si vous voulez, à trouver des magnifiques rôles, ce qu'il mérite.
Et quant au prix de la meilleure série digitale fiction, c'est République, le film interactif de Simon Buisson, qui l'emporte. Le prix coup de cœur série, c'est la série Il a déjà tes yeux qui démarre mercredi sur France 2. Et avant d'accueillir toute l'équipe tout à l'heure, on a déjà recueilli la réaction de Lucien Jean-Baptiste, le réalisateur.
Eh ben, je suis super heureux, vraiment très sincèrement heureux. C'est génial, j'aime bien les coups de cœur. Parce que vous savez, quand je regarde le journal... Les critiques, le mercredi par exemple, vous avez toutes les critiques, nanana, et puis vous avez le coup de cœur. Et finalement, c'est le coup de cœur qui vous arrête, et c'est peut-être le premier film que vous allez aller voir. Après, je suis un peu gêné parce que finalement, ils n'ont vu que deux épisodes. Ils n'ont pas vu la série. Donc c'est un coup de cœur pour deux épisodes. Voilà, merci.
C'est bien déjà. Tu reviens tout à l'heure avec tes producteurs et une partie de la team d'Il a déjà tes yeux. On en parle évidemment dans Chute en écoute la télé aujourd'hui, puisque les deux premiers épisodes sont diffusés mercredi sur France 2. À tout à l'heure, Lucien.
À tout à l'heure, merci beaucoup.
Le Pyrénées d'Or, lui, de la meilleure série, a donc été attribué à Amour fou. C'est donc le troisième prix. Voici tout de suite la réaction du réalisateur Mathias Gokal.
C'est une récompense formidable. Je pense que voilà, c'était un travail d'équipe, donc c'est pas de la fausse modestie. Je suis fier de ce qu'on a fait et je suis très très heureux de ces récompenses.
Alors c'est quatre acteurs hein, qui sont vraiment un quatuor d'acteurs hein, dans cette mini-série.
Absolument, oui oui. Alors après il y a évidemment une récompense particulière pour Clotilde M, mais c'est très mérité. C'est la plus grande et pas qu'en taille.
Qui a décroché le prix de la meilleure interprétation féminine. Mathias, merci beaucoup. Et Amour fou, c'est bientôt sur Arte.
C'est dès le 13 février en ligne et le 20 février en thème.
Le coup de cœur du jury pour la fiction unitaire est attribué au film de Stéphanie Pilonka, Apprendre à t'aimer. Le prix du public de la fiction unitaire, lui, a été attribué à Un homme abîmé de Philippe Tribois. Et enfin, le Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire a été attribué à Adeline Darrault pour le film Mauvaise mère. Voici tout de suite sa réaction. Et juste après, eh bien, c'est le mot du maire que je vous proposerai.
C'est incroyable, c'est génial parce que c'était la première fois que j'avais un film qui était en sélection et c'est la meilleure récompense qu'on puisse recevoir, ça touche énormément. Enfin voilà, je suis sur un petit nuage quoi, c'est génial.
À qui tu le dédies ce prix, Adeline ?
Je le partage à tous les gens qui ont participé, d'abord à Isabelle Sébastien, la scénariste, les productrices, tous les comédiens et j'encourage tous les réalisateurs à ne rien lâcher, à continuer à travailler, parce que ce métier vaut le coup, quoi. C'est magnifique.
Au casting, on y retrouve Barbara Schulz, Thierry Godard, Jessirian Massengo qui a eu le prix d'interprétation féminine de l'espoir. Là aussi, ça doit être une fierté.
Bien sûr, je suis très très fière pour elle, elle le mérite. Elle a fait un travail formidable, elle a beaucoup travaillé, c'était pas facile. Qu'elle reçoive ce prix aujourd'hui, c'est un encouragement aussi, c'est bien.
Et je vous propose tout de suite d'écouter eh bien justement le bilan du maire de Luchon, Louis Ferré.
Écoutez, je pense que c'est un très très bon bilan. Beaucoup de monde, une belle fréquentation. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le monde est arrivé très tôt, puisque le week-end avant le festival, il y avait déjà beaucoup de monde à Luchon. Et je pense que c'était déjà des festivaliers qui étaient en place, donc qui ont profité du beau soleil de la ville. Après, au niveau des œuvres qui ont été primées, je pense que ce sont des œuvres de qualité. Et on avait cette année, je pense, un jury qui était plein d'humanité, plein de profondeur, et ça s'est vraiment ressenti. Donc, une très belle édition.
Et plein d'humour aussi.
Et plein d'humour, bien entendu, mais avec Patrick Timsit, c'était évident.
On se retrouve peut-être l'année prochaine, on verra ce qui se passera au municipal. En tout cas, Louis, merci de nous avoir accompagnés pendant toutes ces années où on est venu. Et puis on espère vous retrouver l'année prochaine.
Mais bien sûr, l'aventure n'est pas terminée, ni pour le festival, ni pour autre chose.
Rendez-vous pour la 23e édition en février 2021. Merci Louis.
Merci, à bientôt.
Et un des invités d'honneur du festival, c'est Yann Arthus Bertrand. On a recueilli évidemment quelques confidences sur son nouveau film Women, qui sera d'ailleurs en avant-première le 13 février prochain au CGR de La Rochelle en compagnie d'Anastasia Mikova, sa co-réalisatrice. Écoutez.
Salut, ça va bien ?
Oui, ça va très très bien Yann, après nous avoir fait voyager dans les airs et nous montrer la France et le monde vu du ciel, là c'est bien sur Terre qu'on arrive avec Woman que vous avez présenté ici en avant-première au Festival de Luchon et qui sera présenté d'ailleurs jeudi prochain au Méga CGR de La Rochelle dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine avec Anastasia Mikova qui sera présente, votre co-réalisatrice de ce film.
Oui, parce qu'il n'était pas question de faire un film sur les femmes avec un mec tout seul, il me fallait une femme qui me dirige absolument parce que je ne savais pas tout. Voilà. Et c'est un film d'ailleurs qui a été fait dans une équipe avec beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc j'avais pas toujours la parole et c'était bien. Et j'ai laissé faire parce que je pensais que ce film avait besoin de fait par des femmes en fin de compte. J'étais un peu là sans mettre trop mon grain de sel. Voilà.
Voilà pour cette spéciale palmarès. On va se retrouver dans un tout petit instant pour la deuxième partie de Chute on écoute la télé avec nos coups de cœur télé depuis Luchon. On va parler évidemment bien du téléfilm Le Canal des Secrets qui sera diffusé demain soir sur France 3 en compagnie d'Annelise M et d'Aurélien Vic. On va parler de la série Il a déjà tes yeux avec Lucien Jean-Baptiste et les coproducteurs du film et plein d'autres surprises. Alors surtout, ne bougez pas, on revient juste après ça.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite.
Laissez-vous emporter par la musique sur Radio Open FM, votre radio.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, évidemment. Ce soir, vous pouvez compter sur nous. On sera en retard, mais après tout.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis.
À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, bien évidemment. Venez avec nous, on va commencer. Et c'est maintenant qu'il faut tout lâcher.
Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis.
Ça peut bien vous faire. Wow, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière
et les amis. À votre bon cœur, tout le monde, les gens. À votre bon temps, évidemment. Fin de soirée bien arrosée.
Il vaut mieux ça que de finir con. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Oh, 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 ce ne sont pas vos affaires. Non, 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 nous aussi on a une vie. La, 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 les filles, la bière et les amis.
Et les amis.
Votre radio des Monts d'Ambazac, c'est Radio Open FM. À retrouver aussi sur radioopenfm.fr.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coup de cœur télé consacré à MBS Prince d'Arabie qui sera diffusé demain sur France 5. Et ça tombe bien puisqu'on a le réalisateur qui est avec nous, Antoine Witkin. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et en plus jury documentaire au Festival de Luchon qui vient de se terminer. Antoine, on va parler un petit peu de ce prince d'Arabie, Mohamed Ben Salman, auquel vous allez consacrer ce documentaire de 70 minutes demain soir sur France 5. Qu'est-ce qui vous a attiré déjà dans le parcours, dans l'histoire de ce prince?
Ce qui m'a attiré, c'est deux choses. C'est premièrement l'importance de MBS pour la région, le Moyen-Orient et pour le monde. C'est l'Arabie Saoudite est un acteur absolument central, décisif d'un certain nombre de dossiers qui nous concernent que ce soit la lutte contre le terrorisme, les tensions avec l'Iran qui menace la paix du monde, l'économie mondiale via le pétrole. Donc c'est un pays important et assez mal connu finalement, assez peu connu. En tout cas, moi je me suis aperçu en réalisant ce documentaire, je connaissais pas si bien finalement ce pays. Et la deuxième chose qui m'a attiré, c'est la figure de MBS lui-même, qui est une figure, les téléspectateurs le verront dans le film, qui est une figure très romanesque. Très très romanesque, très mystérieuse, et pour un réalisateur comme moi, allier quelque chose qui est d'un intérêt journalistique évident à du romanesque, c'est évidemment quelque chose que j'ai voulu faire et dont j'aurais pas voulu passer à côté.
Alors, en plus, c'est le parcours quand même d'un prince qui a de grandes chances de devenir le roi d'Arabie Saoudite. On explore les facettes du personnage, les bonnes facettes, mais aussi les mauvaises facettes de ce personnage dans le documentaire.
Oui, absolument. C'est quelqu'un qui est très clivé. Enfin, c'est un prince aux deux visages. Il est d'une part un vrai réformateur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a compris que l'Arabie Saoudite ne pouvait plus continuer comme ça. C'est-à-dire, à être une sorte de royaume ermite, wahhabite, où finalement tout est interdit. Et donc, il a considérablement ouvert sa société. Alors, il part de très loin. Hein. Je me fais pas d'illusions. Le simple fait de donner le permis de conduire aux femmes, effectivement, c'est une très grande avancée. Mais à l'échelle de ce que nous connaissons, heureusement, sous nos latitudes, on mesure quand même le chemin qui reste à parcourir. Mais effectivement, c'est un réformateur, donc il a accordé un certain nombre de libertés à la société saoudienne. L'Arabie Saoudite a changé sous son règne, entre guillemets. Enfin, il est prince héritier, mais de facto, il gouverne ce pays. Donc ça, c'est le côté face, c'est le côté pile, c'est l'autocratie. C'est un autocrate sans doute plus dur encore que la génération des rois qui ont précédé, son père ou les rois d'avant. L'Arabie Saoudite vit sous la botte. Les opposants ont peur comme jamais, ils n'ont eu peur. Et je pense que tout le monde se souvient, ou en tout cas devrait se souvenir, du meurtre assez atroce du journaliste et opposant Jamal Khashoggi. Dans des conditions sordides. Donc c'est un prince aux deux visages et c'est ça qui est intéressant d'essayer de comprendre.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des pressions particulières que vous avez subies pour pouvoir réaliser ce portrait de la part justement du royaume d'Arabie Saoudite ?
Alors aucune pression. Des difficultés, oui, parce que c'est un sujet compliqué à raconter. C'est un sujet compliqué parce que les intérêts des Occidentaux avec l'Arabie Saoudite sont très importants, économiques notamment, évidemment, et stratégiques. Et donc, je dois dire que j'avais pourtant réalisé des documentaires sur des sujets pas simples précédemment, et dans ce genre de film, des portraits, un film sur Bachar el-Assad ou un autre sur Poutine, ça a été beaucoup plus simple de trouver des interlocuteurs, que ce soit du côté occidental que du côté syrien ou russe, que dans ce cas-là. Là, ça a été très difficile, effectivement, parce que les gens, les occidentaux, n'avaient pas tellement envie de parler de MBS parce que les enjeux sont importants, et parce que c'est quelqu'un qui est très soupolé, pour dire les choses diplomatiquement, donc les gens n'avaient pas vraiment envie de parler, et puis les Saoudiens, là aussi c'est très compliqué, ils ont peur, enfin, donc c'était effectivement difficile. Il n'y avait qu'une pression, aucun risque, mais c'était difficile, ouais.
Le rendez-vous est pris, c'est demain soir sur France 5, Le Monde en Face, consacré donc à MBS, Prince d'Arabie, réalisé par vous, Antoine Vidkin. Merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec un petit extrait justement de ce personnage. Ne le ratez pas, vous allez apprendre en plus beaucoup de choses. Merci Antoine, à bientôt.
Merci pour votre invitation, merci.
Je suis Mohamed Ben Salman, plus connu sous l'acronyme MBS. J'ai 34 ans. Prince héritier d'Arabie Saoudite, je suis accusé d'avoir fait assassiner un journaliste, kidnapper un dirigeant étranger. Je mène une guerre sanglante au Yémen, réprime toute opposition. On me considère impulsif, imprévisible. Je suis pourtant reçu avec tous les honneurs. Mon royaume possède d'immenses réserves pétrolières et pèse sur l'économie mondiale. Je détiens les principaux lieux saints de l'islam. Je suis le premier client des industries d'armement occidentales. Je suis un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Je mène des réformes qui pourraient transformer mon pays et vous enrichir. Je suis incontournable. Je suis votre allié. Mais pour vous, cela a un prix.
Allez, coup de cœur télé également cette semaine pour le téléfilm Le Canal des Secrets qui sera diffusé demain soir sur France 3 avec Annelise M et Aurélien Vic qui sont justement nos invités. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le Canal des Secrets, un film tourné à Castelnaudary dans l'Aude, en Occitanie. Un beau souvenir, je crois, et en plus vous allez voir des beaux paysages, de très beaux sites dans ce film, Annelise.
Oui, un merveilleux souvenir de tournage. Vraiment une région magnifique, très accueillant. Enfin voilà, ça va un peu, on s'est des portes ouvertes, mais vraiment pendant un mois, on a passé un moment magnifique, merveilleux.
On va revenir aussi sur ton rôle de jury au Festival des créations télévisuelles de Luchon. Aurélien, pareil, c'était pas une première en Occitanie pour toi en tournage ?
Non, on avait tourné à Inquisitio.
On avait tourné des morceaux d'Inquisitio dans la région. Et du coup, j'étais content d'y retourner, de repasser par ici et de revenir à Luchon, du coup, aussi. Eh oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de départ, en quelques mots, Anise?
L'histoire de départ, c'est on retrouve une femme assassinée dans le canal. Il se trouve que cette femme, c'est la femme d'un juge parisien. Donc, en fait, une enquêtrice parisienne est dépêchée sur l'affaire pour aider l'enquêteur du coin. Voilà.
Et toi, le canal du Midi n'a aucun secret pour toi?
Eh oui, ce qui énerve le gendarme local qui est sur l'enquête depuis le petit matin et voit arriver une flic parisienne qui a plus de moyens que lui. Et qui est dépêché par un juge ami du juge qui est soupçonné. Voilà.
Oui, donc effectivement, il y a un conflit d'intérêts un petit peu dans l'histoire quand même.
Bah, il aime pas le deux poids deux mesures, ce gendarme. Il a l'impression qu'on est trop gentil avec ce juge et qu'on ne veut pas lui poser les questions très rapidement, parce qu'il faut généralement poser les questions le plus vite possible. Et voilà, il a l'impression qu'il est un peu trop protégé et qu'elle est sûrement de son côté. Enfin voilà, c'est deux chats sauvages qui se rencontrent.
Comment on pourrait définir Isia, justement, Anise? Parce qu'on est loin de Nina quand même, hein.
On sent qu'Isia, c'est une femme qui a un lourd passif qu'on apprendra derrière. C'est pour ça que bon, elle peut paraître assez froide, assez dure, mais voilà, on verra que c'est une carapace et c'est un personnage à plusieurs épaisseurs et c'est ça qui a été très 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 intéressant à interpréter.
Et comment on pourrait définir Maxime du coup?
Maxime est quelqu'un de déçu et on arrive à un moment très compliqué de sa vie. Où il est en séparation et il y a peu de chances qu'il ait la garde de son enfant. Et là, pour le coup, parce qu'il est un papa et pas une maman. Et il est censé partir en vacances avec son fils aussi pour passer du bon temps avec lui. Et une enquête le prend encore. Donc il est vraiment tiraillé au milieu de tout ça. Donc il manquait plus qu'une femme arrive.
Pour le déstabiliser, ouais, un peu plus.
Déstabiliser, ouais, exactement. Voilà.
Votre meilleur souvenir de tournage à tous les deux sur ce film?
Mon meilleur souvenir de tournage, en tout cas, c'est tout le tournage. Parce qu'avec l'équipe d'ici et l'équipe de Paris, c'est comme si on se connaissait depuis super longtemps. Et en fait, le meilleur souvenir, c'est tout le tournage en même temps. Mais aussi, un souvenir très chouette, c'est que je ne sors pas beaucoup. Et mes camarades, dont Aurélien, surtout Aurélien, m'avait organisé un karaoké. Et j'adore. Et le soir, on a fait un karaoké. Et j'ai trouvé ça génial. On était une chouette famille.
Karaoké à la maison, on n'est pas sorti pour aller au karaoké.
On a amené le karaoké, ouais, dans les loges. Oh, c'était génial. Voilà.
T'as chanté quoi comme chanson alors?
Oh là, tellement.
Beaucoup. On peut pas toutes les dire alors.
C'est sympa, non, c'est vraiment très belle ambiance. Et moi, mon meilleur souvenir, je crois que c'était les moments où on était avec Annie, avec le petit. C'était joyeux en fait. C'est des scènes joyeuses. Parce que c'est toujours cool de faire des scènes de flics, d'enquête et tout. Mais là, c'était des scènes joyeuses. Mais ça suffisait largement. On était bien. C'est agréable.
On y retrouve Julien Zidi à la réalisation, bien évidemment. Annie Gregorio aussi dans le rôle de Carmen. Un petit mot sur Nina, évidemment, puisque tu viens de terminer le tournage de la saison 6, qui sera la dernière et qu'on découvrira à l'automne prochain. Alors, je crois que tu n'as pas fait un pas dans Luchon pendant ce festival sans que les gens te disent « Mais pourquoi c'est la dernière saison ?» Alors que c'est une série qui marche. C'est peut-être même la seule série aujourd'hui médicale qui arrive à marcher en France.
Ben oui, pourquoi ? Pourquoi?
C'est le karaoké qui reprend.
Ben oui, pourquoi? Voilà, je sais pas, j'ai pas les réponses.
En tout cas, Nina restera certainement un des personnages marquants de ta carrière, de ta vie.
Bah, toute l'équipe déjà restera dans mon cœur à jamais. Non, mais puis voilà, ouais. On va avancer, on va faire autre chose.
La preuve, regarde, le canal des secrets. Pour toi, Aurélien, les projets?
Bah, il y a Munch qui est en train d'être diffusé en ce moment, la saison 3.
C'est jeudi sur TF1.
Ouais, on va faire une saison 4. Donc, on est ravis. Et puis, d'autres choses dans les tuyaux. Il n'y aura pas de saison 2 au bazar de la charité. C'est un autre projet qui viendra. Ce sera une autre proposition et c'est très bien comme ça.
Mais c'est Grand Hôtel, je crois, qui va venir en grosse machinerie pour TF1.
Ouais, mais je ne parlais pas de cette équipe-là. Mais oui, je crois que TF1 a Grand Hôtel. Quand je dis que quelque chose d'autre va être proposé, je sais même pas si ça sera sur TF1 et tout, mais en tout cas avec cette prod là, ce réalisateur et tout, il y aura quelque chose d'autre qui sera proposé. Et je trouve ça bien qu'on reste sur une saison parce que c'était décidé de pas en faire une deuxième alléchée par plein de choses. Puis des projets personnels que j'amène, des adaptations de bouquins, être à l'origine des projets un peu à la télévision et pour me donner des rôles super.
Eh bien, on va pouvoir passer deux soirées avec toi, en tout cas cette semaine, hein, puisqu'on te retrouve demain dans le Canal des Secrets sur France 3. On te retrouve jeudi également dans Munch sur TF1, aux côtés d'Isabelle Nanty, Lucien Jean-Baptiste et de Tom Villa. Et puis, Anise, eh bien, on te souhaite plein de belles choses. Et puis, la saison 6 de Nina, eh bien, ça sera courant 2020, en octobre-novembre, probablement. Merci à toi.
Merci à tous.
Et à très très vite, on termine avec un petit extrait, le Canal des Secrets.
Bah alors, vous avez perdu votre uniforme, capitaine ?
Je te rappelle que je suis censé être en congé, si je vous...
Ah oui, je suis désolé, mais le commandant a insisté pour que ce soit vous, alors...
Ouais, bah il expliquera à mon fils pourquoi on part plus à la mer. C'est toi qui as identifié la victime ?
Non, c'est Martine l'éclusière. La péniche des Richommes vient mouiller tous les étés dans le canal, du coup, bah, elle les connaît bien.
Autant dire qu'on va avoir toute la hiérarchie sur le dos. Racontez-moi un peu de reste.
Repêché par des touristes qui passaient la première écluse à 7h, les portes devaient retenir le corps. Martine dit avoir fait le dernier éclusage à 20h30 hier soir.
Allez, on continue nos coups de cœur télé, hein, bien depuis Luchon, puisque, eh bien, mercredi, nous allons, eh bien, pouvoir voir enfin la suite du film Il a déjà tes yeux en série sur France 2. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Lucien Jean-Baptiste, réalisateur et évidemment interprète de Paul Aloca, qu'on a tant aimé dans le film. Bonjour Lucien.
Eh bien, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, Sébastien Mounier, le scénariste également, qui nous a concocté ce formidable scénario. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Yvan Sadik également et Maxime Delaunay, les coproducteurs de la série également. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors moi j'aimerais savoir, parce que c'est très rare que ça se fasse en France, qui a eu cette idée folle de poursuivre l'histoire des Aloca finalement sur petit écran et notamment pour la télévision. C'est Sadik et Delaunay, c'est ça? C'est Yvan.
Oui, ben, en fait j'ai eu une réaction de, comme un spectateur en voyant le film quand il est sorti en salle. J'ai eu un coup de cœur pour cette famille et travaillant depuis longtemps pour la télévision, je me suis dit qu'on avait peut-être envie de les retrouver, mais de manière plus longue et d'imaginer que ça pourrait devenir une série. Et là, on est parlé avec mes coproducteurs de Nolita sur cette idée et aussi approché Lucien et Sébastien pour leur proposer cette idée. Mais après, voilà, il s'agissait de trouver quelle pourrait être cette histoire incroyable d'amener cette famille sur le prime time d'une grande chaîne. Et c'est tout le talent de Lucien et de Sébastien qui nous a permis de trouver cette idée de grand parcours sur 6 heures d'histoire.
Alors, c'est la première série, Lucien, en réalisation pour
toi. Oui, pas la dernière. Je suis un peu fatigué parce que c'est pas facile, hein, les séries. Hein. C'est vraiment très difficile. Le truc important, effectivement, Yvan est venu vers nous dire, bon, voilà, c'est génial. Mais quand on s'est réunis avec Seb, il fallait qu'on trouve l'idée. Ça a été vraiment ça aussi l'un des moteurs. C'est une fusée à plusieurs moteurs, plusieurs étages. Et il fallait qu'on trouve l'idée. Et on s'est réunis. Et il est vrai qu'au bout de 2-3 heures de brainstorming, de réflexion, voilà, de jeter d'idées ou de lancer d'idées, eh bien, on a trouvé ça, le retour du père avec les conséquences sur le comportement de Benjamin qui, du coup, veut retrouver ses parents biologiques. Et là, on s'est dit, on peut y aller. Et comme vous remarquez que je suis très bavard, c'est formidable d'avoir 5 heures, enfin, à peu près 5 heures de programme pour s'exprimer et surtout rentrer dans les foyers, dans les familles françaises pour échanger sur des points de vue parfois difficiles liés à la situation en France. Voilà.
Ça va être l'occasion justement de vraiment d'aller plus profondément dans cette famille, de la découvrir, de découvrir aussi bien des sujets de société à travers cette famille. Alors pour résumer un petit peu quand même l'histoire du film, pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui vont découvrir la série, c'est un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc, Benjamin, et on fait un bond dans le temps dans la série et on va s'apercevoir qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant dans le film et que là ils ont réussi effectivement après avoir adopté un Benjamin à avoir un enfant naturellement. Alors évidemment cette famille peut-être pas comme les autres, enfin du moins ce que les autres ne décrivent pas comme les autres, va nous emmener dans des situations drôles et tendres à la fois. Sébastien.
Ah oui, bah c'est exactement ça. En fait, quand on a cherché cette idée de savoir comment est-ce qu'on pourrait l'élaborer en série, on s'est dit que si on avait, enfin, on pouvait pas rester juste sur l'idée d'un couple de Noirs qui adopte un enfant blanc, d'autant qu'on avait déjà fait le film et qu'on avait déjà traité à peu près de tout ce qu'on voulait. Donc, on a essayé d'élargir au maximum et de réfléchir à une thématique. Et je pense que la thématique générale, c'est la famille, savoir ce que c'est qu'une famille aujourd'hui, comment on vit dans une famille aujourd'hui, comment on vit en France dans une famille aujourd'hui, et puis pousser encore plus loin en disant qui on est en fait, d'où on vient, qui sont nos parents, est-on tous adoptés ou pas, voilà. Donc à partir de là, on avait une base pour parler 6 heures autant de la famille, d'une façon universelle je pense, savoir qui la relation avec ses parents, la relation avec ses enfants, et aussi parler un peu de la France et de certains sujets de société dont vous avez parlé, au travers des problématiques de cette famille. Voilà.
Maxime, qui était à la base quand même aussi sur le projet du film, quand on t'a proposé, Maxime, d'en faire une série derrière, de faire une suite, tu te dis quoi à ce moment-là ?
Bah, je me dis que c'est une très bonne idée. Après, nous, on n'avait jamais mis un pied en série, si tu voulais. On était simplement spectateurs de série. Donc, moi, je ne sais pas faire de série à la base quand Yvan arrive avec cette idée. Donc, je lui dis déjà, tu vas convaincre mes deux petits camarades, que sont Lucien, Jean-Baptiste et Sébastien Mounier. Et puis, s'ils ont envie, bah, nous, on sera en ski derrière, qu'on suivra, quoi. Voilà. Mais après, on a appris un peu ce métier de producteur de série sur le tas. Et je trouve que, enfin, moi, en tout cas, j'en suis très fier. J'ai aucune objectivité par rapport à la série que j'aime par-dessus tout, quoi. Voilà. Je trouve qu'elle est fidèle au film et en même temps elle dépasse en profondeur, je crois, ce qu'était encore le film. Je crois que Lucien dit toujours, on parle d'une famille française, on parlait ce matin et on a vu un peu, je crois que les gens ont largement dépassé le stade de oh tiens, il y a un blanc ou un noir à l'écran. Je pense qu'on est en train de voir une photographie de la France, en tout cas j'ai l'impression qu'on a réussi ça. Voilà.
C'est très fidèle, effectivement, mais l'avantage aussi, c'est que même si on n'a pas vu le film, on se plonge très très vite dans la série, on n'est pas obligé d'avoir vu le film avant, ça c'est important quand même de le dire, mais malgré tout, toute la famille est de retour. Alors Lucien, comment on fait pour convaincre tout le monde d'y aller ? Aïssa, Philomène, Sarah Mortensen, enfin on retrouve tous ceux qui ont participé au film.
Ben, c'est toujours la même chose. C'est le verbe, hein. C'est la feuille, c'est le scénario, c'est les idées qu'on pose. Et puis on écrit le scénario avec Seb. Et puis on se dit tiens, cette histoire elle est chouette. Et on envoie ça aux comédiens. Et après on attend les retours. Et les retours sont formidables. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et il est vrai que, et on va pas se vanter, mais moi j'aime bien l'idée de cette petite famille que, au-delà même. De l'histoire du film, si vous voulez, c'est moi j'aime bien retrouver les comédiens, j'aime bien retrouver les équipes de tournage, etc. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'ai l'impression, quel que soit le projet, presque qu'on a un plaisir à se retrouver en tournage. Mais moi j'aime bien qu'il y ait une très bonne ambiance sur les plateaux et je crois que les comédiens vraiment étaient en attente de quelque chose. C'était pas cette série, ça aurait été autre chose, mais du coup quand on les a appelés, ils étaient tous ravis, enchantés, et bon, il y en a quelques-uns qui malheureusement n'ont pas pu ou sont passés à la trappe, et c'était avec beaucoup de tristesse et de regret. Et je pense quand ils vont voir la série, alors là, ça va être le deuil.
Ça sera pour la saison 2. Voilà, exactement. On va écouter tout de suite un petit extrait. Il a déjà tes yeux, la série, c'est mercredi sur France 2.
Du bonheur. De toute façon, on a toujours rêvé d'être parents, alors.
Ça vous a jamais fait peur d'avoir un enfant noir, un enfant blanc?
Mais au pays là-bas, on a pensé que c'était de la plaisanterie. Mais non.
C'est-à-dire que le mec, il veut recréer des liens qui n'existent pas et qui n'existeront jamais.
Tu veux venir dîner avec nous, s'il te plaît?
Bah, oui.
Non mais attends, Paul, qu'est-ce que j'ai fait?
Il me disait, comme papa a revu son père, ce serait marrant que moi aussi je retrouve mes vrais parents, non?
Tu parles de tes parents, les blancs.
Ouais.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé. Alors, vous avez vu, voilà, un petit extrait déjà de ce qui va se passer mercredi. Lucien, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une fidélité aussi. Il y a une espèce de troupe autour de toi. Moi qui te suis depuis le départ, depuis la première étoile, la deuxième étoile, 30 degrés couleur, etc. Il y a toujours une petite troupe de comédiens auxquels t'es vraiment très fidèle. On a vraiment l'impression, et ça se ressent à l'écran, qu'il y a une troupe d'amis qui tournent ensemble et qui prend du plaisir à faire ce qu'on voit.
Oui, oui, bien sûr. Vous savez, et pourtant, je n'aime pas ça chez les autres. Vous savez, souvent, il y a des réalisateurs, ils bossent qu'avec les mêmes. Mais bon, c'est comme ça. Vous savez, c'est tellement difficile... déjà de réaliser des films, d'être comédien, tout ce truc. Et en plus d'être devant, derrière. Donc, j'essaye d'avoir des piliers. C'est-à-dire comme des cadres qui font que, quelle que soit l'aventure dans laquelle je vais me lancer, eh bien, je sais que je pourrai m'appuyer sur un tel, sur Seb pour l'écriture, sur Colin Van Dersman pour l'image, que j'ai besoin de quelques comédiens dans des rôles précis qui vont me tenir, qui vont m'aider, parce que je me lance toujours dans des aventures, waouh. Vous savez, le coup devant, derrière, c'est un truc que pour moi, c'est quelque chose d'imparfait. Donc, j'ai vraiment besoin d'être accompagné de gens en qui je peux avoir totalement confiance, sur lesquels je peux me reposer. Et puis, ensemble, on va raconter la belle histoire. J'ai besoin de cette fidélité, effectivement.
Sébastien, donc on va avoir affaire dans ces deux premiers épisodes qu'on va avoir mercredi au retour du père. Ce qui va pas être du tout du goût de Paul.
Bah non, parce que on découvre qu'en fait Paul n'a jamais connu son père, que son père en fait l'a abandonné au moment l'a abandonné avant la naissance, quoi, et que donc il a toujours vécu avec cette absence de père. Et donc effectivement, le fait de le voir débarquer dans la famille qui s'est construite depuis des années avec Aïssa va bouleverser sa vie, en fait, quoi, tout simplement. Voilà.
Yvan, là je vais m'adresser à toi là pour le coup. Est-ce que la saison 2 est déjà sur les rangs?
La saison 2, en fait, on y pense surtout au regard de l'accueil du public sur la saison 1. raconter de nouvelles histoires avec cette famille, c'est très inspirant, donc forcément on aura certainement envie de revenir. Nous, maintenant, on a surtout envie de voir si le public a envie de comment ils accueillent cette nouvelle famille, enfin cette famille sur le petit écran. Et à partir de là, ça dépendra vraiment du succès de la série.
J'ai pas beaucoup de doutes, moi, je peux vous dire, mercredi. On en parlera jeudi matin. Voilà, on en parlera jeudi matin avec les audiences, mais je suis sûr que, voilà, on va essayer de vous porter chance, en tout cas, on espère. Toi, t'es prêt, en tout cas, Lucien?
Je vais vous dire la vérité, là, je suis encore en convalescence. Je récupère de ce tournage. Je vous assure, hein, je récupère de... C'était très intense, tout ce qu'il y a eu après est intense, la promo est intense, c'est... Non, je récupère, là. Je suis prêt pour rien, là. Je suis prêt pour parler du film, tout ça, mais pour l'instant, j'ai fait reset dans ma tête.
T'as déjà des projets au cinéma pour la suite ou pas?
Oui, oh là là, les projets, ça manque pas. C'est juste l'énergie là qu'il faut retrouver.
En tout cas, l'énergie, vous allez l'avoir, moi je vous le dis. Mercredi, c'est juste après un si grand soleil à 21h05. Vous allez pouvoir suivre la famille Aloka dans de nouvelles aventures. C'est la suite du film Il a déjà tes yeux en 6x52 minutes. C'est parti pour 3 semaines de pur bonheur avec vous. Merci beaucoup, Lucien.
Merci à vous. Merci.
Merci, Sébastien.
Merci beaucoup.
Et puis merci beaucoup, Yvan et Maxime. À très vite.
Merci.
Merci infiniment encore.
Merci.
Et on va se quitter avec un petit extrait.
Pourquoi tu m'as pas dit qu'il allait partir?
Mais qui s'en est, le petit?
Bureau 207.
207.
207.
Bureau 207. 207 comme 15 secondes.
Qui est le responsable de ce gamin?
Nous sommes ses grands-pères.
On a décidé de se foutre de moi, j'adore. Au papier.
Et d'ailleurs, Benjamin, faut qu'il vienne me voir à la campagne. Hein.
Oui.
Il faut prendre des couleurs un peu.
Respire.
Ça sent le monde, ça sent la terre. C'est la vie, ça.
Tu veux que je te dise la vérité? C'est que si mes parents avaient eu nous avant moi, ils m'auraient jamais adopté. Ça aurait été mieux pour tout le monde.
On va les retrouver, on va les obliger à rencontrer Benjamin.
Allez, c'est parti, la famille Aloka!
Voilà pour notre spécial festival des créations télévisuelles de Luchon. Dans quelques instants, eh bien, nous allons recevoir Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo pour parler du film Le Prince Oublié. Ce sera la dernière partie de notre émission. Mais juste avant, je voudrais remercier déjà nos partenaires qui nous ont permis, eh bien, d'aller jusqu'à Luchon pour vous proposer cette émission exceptionnelle aujourd'hui. Alors, merci à Volkswagen Marraine qui nous a véhiculés. Merci également à l'hôtel Le Céleste qui nous a logés sur place à Luchon. Et puis, un grand merci également à notre restaurant Les Caprices d'Etigny à Laurent, en particulier, qui nous a régalé pendant ce festival également. Je voudrais en profiter également pour remercier toute l'organisation du festival, alors l'association du festival au travers Christian Miegeville et tous les bénévoles qui nous ont accueillis et chouchoutés pendant ces 4 jours. Un grand merci à Christian Cap et toute son équipe également. Merci à nos adorables attachés de presse, bien évidemment à Luc et à Peggy qu'on embrasse très très fort pour leur aide précieuse. De belles choses qui vous attendent évidemment dans Chute on écoute la télé. Et on va donc passer à notre coup de cœur ciné dans quelques instants. Alors à tout de suite, rendez-vous après ça.
Bouge pas, Chute on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Vous écoutez Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac. Bienvenue chez vous.
Get your feet out on the floor.
Got to give a little love, got to give a little more. Got to give it all you got, get your feet out on the floor.
Radio.
Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et c'est un coup de cœur ciné consacré au film Le Prince Oublié aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, que l'on va démarrer maintenant avec Michel Hazanavicius qui est avec nous, le réalisateur. Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et Bérénice Bejo qui va nous rejoindre d'ici quelques instants également. J'ai eu la chance de voir il y a quelques jours maintenant ce Prince Oublié en avant-première et il faut dire qu'on passe un moment merveilleux. C'est vraiment le mot que j'emploierais.
Oui, bah c'était exactement l'idée d'aller vers le merveilleux. Je vais pas te faire un film merveilleux, on aimerait toujours, mais en tous les cas, d'aller vers le merveilleux, c'est-à-dire adopter la forme d'un conte, raconter une belle histoire, passer un bon moment avec des sentiments, avec une morale à la fin, et puis avec quelque chose qui ressemble à la vie, mais qui est transposé, transcendé, de manière à en faire du spectacle.
Alors avec Omar Sy, c'est l'exploration un peu effectivement des relations père-fille qu'on explore à travers la vie réelle et en même temps une vie imaginaire dans ce film.
Oui, le père, donc interprété par Omar Sy, raconte des histoires à sa fille et on va dans ce monde des histoires, on va dans ces histoires qui sont racontées et on vit un peu avec ces personnages. Et le fait de raconter une histoire sur deux niveaux, un monde réel et un monde imaginaire, permet d'illustrer ou de raconter des conflits et des problématiques très intimes, à savoir accepter que son enfant grandisse et sorte de l'enfance. Et bien justement, ça permet de le raconter avec avec du spectacle, avec des aventures, avec de l'épopée. Et donc, j'aimais beaucoup cette idée de se dire que vu de l'extérieur comme ça, eh ben c'est pas grand chose. Laisser grandir son enfant, regarder son enfant sortir de l'enfance, finalement c'est assez banal quotidien. Mais à l'intérieur, c'est épique justement. C'est une grande aventure.
Comment est née la genèse du projet ? Et Bérénice qui nous rejoint. Bérénice, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. On va continuer donc à parler de la genèse du projet, Michel.
Eh bien, la genèse du projet, c'est un scénario qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Bruno Merle. Et les producteurs, Jonathan Blumenthal et Philippe Rousselet, ont développé ce scénario jusqu'à un moment où ils en étaient assez satisfaits pour me le faire lire. Et c'est vrai que quand j'ai lu cette première mouture, ou en tous les cas cette première version lisible, disons, du scénario, j'ai été très touché et conquis par d'abord les thématiques. Donc j'ai été très touché par cette histoire d'un père qui doit accepter que sa fille sorte de l'enfance. Et le côté épique et d'aventure dont on parlait tout à l'heure m'a séduit, par contre, peut-être plus en tant que réalisateur. Je me suis dit, là, il y a un film qui a une ampleur, une ambition qu'on n'a pas l'habitude de voir en France.
Alors si la partie effectivement réelle reste relativement classique au niveau tournage, la partie conte et a des images mais absolument mais merveilleuses, c'est beau, le décor sont beaux, tout est beau à l'image, vraiment sur cette partie-là et assez inédite finalement. C'est quasiment une première fois qu'on fait une aussi belle image au milieu d'un film.
Non, il y a déjà des films quand même qui ont des images magnifiques.
Non mais c'est le mélange, je parle, parce qu'il y a souvent soit l'image de conte, soit l'image classique.
Je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'il y a un aspect, comme vous le disiez au début, merveilleux. Et c'est vrai que ce côté conte, ce côté merveilleux, avec de la fantaisie, avec des aussi bien des dragons que des personnages complètement loufoques, incongrus, etc. Je ne sais pas si c'est inédit, mais en tous les cas, c'est très original. Et cette originalité, évidemment, fait partie des ingrédients qui m'ont séduit, oui.
J'imagine bien. Bérénice, quand on lit un projet comme ça, quand on voit un projet comme ça, on n'hésite pas longtemps à y aller.
En fait, comme c'est un scénario qu'on a proposé à Michel, j'étais au courant de ce film via Michel. Au début, je pensais pas que j'allais jouer dedans. Voilà, je j'étais pas sûre. Et puis, en fait, c'est un personnage qui est extrêmement sympathique, lumineux, qui fait des gaffes, qui arrive jamais au bon moment. C'est un personnage qui est un personnage un peu comique dans le film, parce que tellement maladroit. Et en même temps, c'est une héroïne parfaite. On attend qu'une chose, c'est de la voir embrasser le héros, sauver le héros. Donc c'est des personnages qui sont très gratifiants. Et puis c'est vrai que j'aimais bien le côté, le mélange des deux histoires, le fait d'être à l'intérieur des émotions du papa, de se rendre compte à quel point laisser grandir ses enfants, c'est un bouleversement, parce que tout d'un coup, on n'est plus le héros de chaque seconde de sa vie. Et ce moment-là, il est difficile pour les enfants et pour les parents. Je trouve que c'est très bien raconté. Et puis c'est un film aussi qui parle de transmission, de transmettre des histoires. Et puis même quand les enfants grandissent, il faut toujours être présent. Et puis la place des grands-parents aussi, qui reviennent dans la vie de nos enfants. Il y a vraiment plein de choses qui me touchent dans le film. C'est un film où moi je rigole beaucoup, mais je pleure aussi pas mal. J'ai versé quelques larmes. C'est un film divertissant, populaire, tendre, avec beaucoup d'amour. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un film comme ça, donc j'étais contente d'être de nouveau réunie avec Michel. Et ma rencontre avec Omar, que j'avais rencontré sur l'estrade des Césars, il avait gagné son César et moi aussi la même année, ça a été un vrai bonheur, quoi. C'est une rencontre, c'est une personne tellement généreuse, tellement honnête, tellement contente. C'est une personne heureuse sur un plateau qui donne beaucoup de lui-même. Et du coup, je suis heureuse d'avoir pu partager ça avec lui aussi.
On va évoquer vos souvenirs de tournage d'ici quelques instants, mais on va tout de suite écouter la bande-annonce de Prince Oublié. C'est mercredi au cinéma. On écoute.
Il aurait se coucher là. Et vite. Sinon, il va être trop tard pour l'histoire. Alors, on était où déjà ?
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse !
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Comme on n'a pas d'histoire.
Papa, j'ai 11 ans. Je peux me les faire toutes seules, mes histoires, maintenant. Tu comprends ?
C'est la fin, mon pote.
Bonjour. Max.
Monsieur, vous pouvez pas entrer.
Le prince va arriver.
Je suis le prince.
Il arrive. Le prince.
C'est quoi, ça ?
Voilà, Le Prince Oublié, mercredi dans les salles. On va évoquer un petit peu vos souvenirs de tournage. Alors Michel, en tant que réalisateur, évidemment, quelle est peut-être la scène qui a été la plus redoutée, qui est souvent d'ailleurs la plus facile à mettre en boîte au départ, puisque du coup, mieux préparée peut-être?
C'était un film avec énormément de défis ou de choses compliquées à réaliser. Le plus compliqué, c'est que ça ait l'air simple à la fin, c'est que ça ait l'air naturel et qu'on se dise que ça ne sente pas le labeur. Mais c'est vrai que c'est des films qui sont compliqués parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a des choses qu'on n'a jamais faites, donc on les invente en les faisant. Et il y a pas mal de scènes, donc c'est un peu compliqué d'en prendre une. Je dirais que peut-être la plus compliquée, ça a été la scène du baiser entre Bérénice Bejo, qui est donc ma femme, et Omar Sy, qui est donc mon copain. Et donc, voir un copain embrasser sa femme et demander de recommencer, ce qui est le rôle du réalisateur, je dirais que c'est peut-être ce qu'il y avait de plus compliqué, ouais.
Et là, il doit se dire, on va pas refaire la prise 36 fois. Alors, on y va une bonne fois, hein, mais on n'y va pas non plus 10 fois. N'est-ce pas ?
Moi, je crois, contrairement à Michel, c'était un de mes plus beaux souvenirs de tournage. Voilà, c'est cette scène-là avec Omar.
Voilà. Et franchement, d'ailleurs, c'est vrai qu'à chaque fois, elle avait une petite phrase à dire et elle a quand même savonné cette phrase une bonne quinzaine de fois. Donc, j'étais bien obligé de la refaire, cette prise.
C'est-à-dire que c'est là où on voit le métier de comédienne, c'est compliqué. Je veux dire, c'est vrai que c'est des scènes, cette scène-là où je dois embrasser Omar, c'était pas simple.
Et c'est pour Omar non plus, hein, peut-être. Hein, ça a dû être très très compliqué pour lui, on imagine bien aussi. On va parler aussi de la partie post-production, montage. On imagine le boulot que ça a dû être sur un film comme ça pour rajouter les images que vous souhaitez, les effets que vous souhaitez. Ça a été un an de montage quasiment hein, sur le film derrière, après le tournage.
Oui, de ce qu'on appelle la post-production, c'est-à-dire montage, trucage, composition de la musique, etc. D'ailleurs, c'est un des très 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 grands compositeurs de musique actuelle qui s'appelle Howard Shore, qui a signé la musique du film, qui est un monsieur qui a trois Oscars en l'occurrence, qui a fait Le Seigneur des Anneaux, des films de Scorsese, de Cronenberg, de Tim Burton, enfin genre, vraiment, c'est un très grand compositeur américain. Et oui, c'est compliqué, mais en même temps, enfin je reviens à la partie image, en même temps, il se trouve qu'en France, et le film est totalement fait en France, on a des excellents, mais des excellents graphistes, des excellents, comment dire, boîtes de trucage numérique, etc. Et donc, c'était pas facile, parce que le film a une ambition visuelle que nous devions respecter. C'était palpitant, quoi. Voilà, c'était très excitant à faire, parce qu'on avait l'impression, c'était très créatif. Et j'avais en face de moi des gamins de je sais pas, 24, 25 ans, surdoués, qui faisaient des propositions absolument géniales, qui étaient extrêmement motivés, parce qu'encore une fois, c'est un film qui a une ambition qu'on ne croise pas tous les mercredis en France. Et du coup, ils étaient tous super motivés et c'était très agréable à faire. Difficile, mais agréable.
Un petit clin d'œil à Serge, votre frère, qu'on a déjà reçu dans notre émission, qui a la voix d'un des personnages dans la partie animée.
Oui, il fait en fait la voix de ce monde imaginaire. Il y a une espèce de voix dans les haut-parleurs qui dit un petit peu ce qu'il faut faire. Voilà, histoire dans deux minutes, ce genre de choses. Et ouais, c'est un petit clin d'œil, oui, c'est mon frère est venu faire ça, ouais.
Bérénice, la suite, vous la voyez comment? Vous avez envie de refaire un film vite, ensemble?
Bah, vite, faut qu'il l'écrive, mais oui, enfin, j'espère qu'on refera un film ensemble, Michel.
Ça va dépendre un peu de ce que tu racontes sur cette histoire de baiser, là, faut qu'on se parle quand même.
Mais, il y a des choses qui vont se passer en off après, je sens.
Non, mais moi j'adore vraiment, mais d'ailleurs, enfin, je sais pas, je crois qu'on a fait, il me semble, 5 films peut-être ensemble. J'adore travailler avec Bérénice, c'est très épanouissant d'admirer la personne avec qui on vit et d'avoir envie de travailler avec elle et puis d'établir une relation comme ça sur le long terme, de film en film, et d'aller explorer des genres, des films, des personnages nouveaux à chaque fois. Ça évite une éventuelle monotonie du couple.
Voilà, c'est très bien. Les prochains terminent avec les projets Bérénice, hors du Prince oublié. Est-ce qu'il y a du théâtre, de la télévision, du cinéma, d'autres films pour 2020?
Oui, j'ai normalement 3 films qui vont sortir en plus du Prince oublié. Un film de Sergio Castellitto, il y a un film de Daniel Cohen et un film israélien que j'ai fait de Tom Choval. Voilà.
L'année 2020 va être bien occupée.
Oui, et puis je serai au théâtre effectivement normalement à la rentrée.
Dans une pièce qui va s'appeler
Le mariage de Figaro.
Voilà, si ça passe par chez vous, voilà, n'hésitez pas à aller voir Bérénice au théâtre. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci Michel, merci Bérénice. Le Prince oublié, c'est mercredi au cinéma. On se quitte avec un petit extrait. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Mon père a toujours été très présent, mais à un certain âge, j'aimais bien qu'il me laisse un petit peu d'air.
Les oubliettes, c'est là où on envoie les personnages quand ils sont plus dans aucune histoire. Ils disparaissent. Pour de bon.
Welcome to the oubliettes.
Tu peux m'expliquer ça? C'est tout de moi.
Je dirais pas mes textos.
Je fais ce que je veux, je suis ton père.
Vous y connaissez en fugue?
Vous êtes un super papa. Il faut bien la laisser grandir.
Moi bloqué ici. Et donc c'est sans issue.
Ne laisse pas oublier, prince.
Et toutes ces histoires, alors pour finir oubliées.
La princesse est en danger, il faut que j'y aille.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va donc se retrouver lundi prochain avec une toute nouvelle émission inédite évidemment de Chute, on écoute la télé, que l'on va consacrer eh bien en partie au film 10 jours sans maman. On recevra à cette occasion Ludovic Bernard et nous aurons un invité exceptionnel. Et oui, Franck Dubosc sera notre invité dans Chute, on écoute la télé. On parlera également de la série Il a déjà tes yeux qui a commencé cette semaine sur France 2 et plein d'autres surprises. Alors restez connectés surtout avec nous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier vos applications iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h10 pour la quotidienne sur Open FM et puis la grande hebdo, n'oubliez pas, c'est lundi prochain dès 17h pour son grand retour. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé avec les tourtes Limousine. Spécialité élaborée en Limousin sans huile de palme, sans conservateur. Pâté de pommes de terre, viande et autres tourtes confit de canard, cèpe ou gésier en vente partout dans vos grandes surfaces.